Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Alors, on a une vidéo de quelqu'un qu'on aimait beaucoup ici à Géopolitique Profonde, c'est le général de Lavarde. Elle en date du 4 octobre 2024, la matinale de notre ami Nicolas Stocker. Et on va l'écouter et on va commenter ce que disait feu général de Lavarde.
D'abord, il faut savoir que quand les États-Unis envisagent de faire la guerre, ils font ce qu'on appelle des war games. Et ils essayent d'imaginer ce que donnerait. Alors, dans des exercices d'état-major, ils lancent une grande opération, bon, fictive, mais avec un commandant des forces opposées, hein, et un commandant de nos propres forces, et qui s'affrontent, les deux camps s'affrontent dans un exercice d'état-major pour voir le résultat. En 2002, enfin, il y a eu plusieurs wargames contre l'Iran. Plusieurs wargames contre l'Iran. Alors, on n'appelle pas l'Iran l'Iran, hein, on n'appelle pas les États-Unis, on appelle ça les bleus et les rouges, mais ça ne trompe personne. On sait qui est derrière ces jeux de guerre. J'ai eu l'occasion de participer en tant que représentant de la France à un de ces jeux de guerre. Donc c'est très intéressant. Et en 2002, le jeu de guerre qui s'appelait Millennium Challenge, et qui consistait donc à faire une guerre à l'Iran. La force expéditionnaire américaine s'est approchée des côtes iraniennes et en deux jours, elle a été coulée. Alors, c'était fictif, hein, elle a été coulée. Il y a eu 15 bâtiments sur 16 qui ont été coulés de la première vague expéditionnaire, et la deuxième vague a été coulée de la même manière, parce que les Iraniens, même en 2002, avec des moyens de 2002, je ne vous dis pas avec les moyens de 2024. L'Iran de 2024, ce n'est pas l'Iran de 2002, hein, et ce n'est pas l'Irak encore plus de 2002. Hein. L'Iran, c'est quatre fois la population ou presque de l'Irak de 2002, et c'est quatre fois la surface. Et puis, c'est une puissance économique bien supérieure à ce qu'était l'Irak, et une résilience qui a été prouvée dans le passé. Donc, tout ça, en 48 heures, le général Van Ripper, qui commandait, américain, hein, du corps des Marines, qui commandait les forces iraniennes contre son propre camp, donc dans ces exercices, dans ces jeux de guerre, war games, hein, et a réussi à détruire la force expéditionnaire américaine en deux temps, trois mouvements. Hein. C'est-à-dire que les Américains, aujourd'hui, vous comprenez, ils n'ont pas envie. Alors, ça aurait été la perte en quelques heures. Hein. Deux jours après le début du conflit contre l'Iran, dans cet exercice Millennium Challenge, il y avait 20 000 Américains au tapis, hein, et au fond de la mer, hein, dans les bateaux, avec les avions qui allaient bien. Il y avait un porte-avions et tout un groupe porte-avions qui était à l'eau. Donc, la première raison pour laquelle on perdrait la guerre, c'est que l'Iran d'aujourd'hui, c'est pas l'Irak de 2003. Et déjà que les Américains, on l'a vu, se font foutre dehors, ils se sont fait foutre dehors du Vietnam, de l'Irak, de l'Afghanistan et de tout ce qu'on veut.
Hein, et de la Syrie.
Et de la Syrie aussi. Hein. Donc, ils ont perdu à peu près toute leur guerre. Et là, ils n'ont pas envie d'entamer une guerre, d'autant que l'Iran n'est plus seul. L'Iran n'est pas seul. Merci. L'Iran a derrière elle, l'Iran fait partie de grandes organisations internationales qui lui permettent d'avoir de plus en plus de résilience. Et en particulier, quelles grandes organisations internationales? L'Organisation de coopération de Shanghai, oui, oui. Et puis les BRICS.
Bien sûr.
L'Iran fait partie de ces deux organisations. C'est, et a au sein de ces organisations des alliés, et pour ne pas dire, et de bons amis, hein, la Chine et la Russie sont, qu'on le veuille ou non, du côté de l'Iran. Hein, ils sont d'ailleurs tous les trois classés dans la même catégorie de l'axe du mal, hein, contre les Américains et contre Israël aussi, hein, bien sûr. Ouais. Hein. Donc, si vous voulez, vous ne gagnez pas l'Occident otanien et Israël ne gagneront pas à eux tout seuls une guerre contre autant, menée sur autant de fronts. Hein, on peut gagner contre un adversaire, hein, contre deux adversaires, mais simultanément, on ne peut pas gagner contre des adversaires de la taille de l'Iran, de la Russie et de la Chine. Simultanément, ça n'est pas possible.
Alors, c'était les paroles du général de Lavarde, le regretté général de Lavarde, qui venait chez nous très, très souvent. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent, de ce qui s'est dit?
Ben, je suis d'abord très nostalgique de voir le général de Lavarde, que je suivais beaucoup chez vous. Et effectivement, quand il dit que l'Iran n'est plus seul et que l'Iran de 2024 et 2026, maintenant, c'est plus celui de 2002, il a raison. Effectivement, la Chine, l'Iran, en dehors d'être également membre de l'OCS et puis des BRICS, c'est un pays qui maintenant fait des achats d'armes à la Chine. Et pas n'importe quoi. Moi, je me rappelle, en novembre 2024, j'étais au salon aéronautique de Zhuhai, qui est un salon principal. Enfin, il est civil et militaire, mais principalement militaire. Et j'avais vu monter dans un J-10 chinois le général iranien qui est en charge de l'Air Force iranienne, avec toute sa délégation. Et je me dis, ça c'est quand même bizarre, parce que s'il vient et qu'il monte dans l'avion devant les médias chinois, il n'y avait pas un seul média occidental, ça veut sûrement dire qu'ils ont acheté ou qu'ils vont acheter. Et ça n'a pas raté, quelques mois plus tard, effectivement, l'annonce a été faite. Alors, ça prend du temps pour former des pilotes. Hein. Je pense que les pilotes iraniens ont déjà été formés en Chine depuis cette époque-là. Ils ne sont pas forcément opérationnels maintenant. L'Iran, même s'ils le sont, l'Iran n'avait pas forcément envie de les sortir maintenant non plus. Mais effectivement, en dehors des radars que la Chine aurait fourni, alors ça reste du domaine de la rumeur, mais la Chine aurait fourni un certain nombre de radars pour se protéger des missiles américains. Ils n'ont pas encore été mis en activité apparemment, mais il y a aussi tout un armement offensif chinois. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce J-10 chinois, cet avion, qui est un avion de génération 4,5, c'est quand même celui qui a descendu des rafales indiens dans l'armée pakistanaise, parce que l'armée pakistanaise s'est équipée du J-10 depuis plusieurs années, mais pas seulement cet avion-là, qui en termes d'avionique est inférieur au Rafale, mais il est intégré dans une suite de missiles, d'avions, de radars, de ce qu'on appelle les yeux dans le ciel, là, ces espèces de gros AWACS chinois. Et donc cette suite intégrée a permis à l'armée pakistanaise, avec quelques J-10 et des bombes et des missiles, d'abattre notamment trois rafales français qui avaient été vendus à l'Inde. Donc effectivement, l'Iran, en termes de war games, et c'est intéressant parce qu'il se passe la même chose du côté chinois. Les Américains, je le cite dans mon ouvrage en introduction, les Américains ont fait énormément de war games entre la Chine et les États-Unis et puis le Japon, la Corée, sur un scénario de reprise de Taïwan. Et 100% du temps, les États-Unis se prennent une culottée. Voilà.
Donc s'ils se prennent des culottées, cher Jean-Michel, ils vont avoir besoin d'alliés et peut-être européens.
Bah, on nous ressasse tous les jours que l'Iran est seul, totalement isolé, mais ils ont mis en place un système, ce qui explique justement le résultat des wargames, mais il y en a d'autres. On revient à des méthodes de combat qui sont extrêmement primitives et les celles qui sont les plus modernes. L'Amérique est entre les deux, elle n'a pas compris ce qu'était la guerre au XXIe siècle. Je donne juste un exemple. Quand les télécommunications ne fonctionnent plus, eh bien, on envoie des gens sur des motos pour porter des ordres. Mais là, il n'y en a même pas besoin, puisque l'Iran s'est doté de 31 commandements militaires autonomes, indépendants, dont les objectifs, les cibles, les directives ont été fixées avant le conflit, et donc ils fonctionnent en autonomie, même si on a coupé la tête. La tête vient d'être reconstituée, mais seul Ali Khamenei pouvait, à un moment donné ou à un autre d'ailleurs, ordonner de cesser le combat. Donc il y a une autonomie, ce qu'on appellerait En langage de chez nous, le principe, bon, enfin, bon, peu importe le nom du principe, mais ça marche extrêmement bien. C'est une armée qui a su évoluer. Ils n'ont pas programme nucléaire proprement dit, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne préparent pas, comme les Japonais d'ailleurs, qu'ils ne préparent pas, mais ils ont pu concentrer, n'oublions pas, si on regarde l'échelle, je m'arrête ici, si on regarde l'échelle des QI à travers la planète, on a les Coréens du Sud, les Japonais, les Chinois de Singapour, et juste après, en quatrième ou cinquième place, on a les Iraniens. Produisent des ingénieurs en pagaille. Contrairement à cette tyrannie épouvantable, est une productrice d'intelligence, de compétences, notamment chez les femmes. 60% des étudiants au niveau supérieur sont des femmes en Iran. Mais on nous dit qu'elles sont écrasées, qu'on les oblige à porter ce...
C'est pour nous dire, hein. Ils ont quand même tué plus de... Le régime a quand même tué plus de 30 000 personnes.
Non, mais
parce qu'ils ont protesté.
Je ne veux pas rebondir, mais...
On parlait à un Libanais, hein. Nous, on connaît bien le régime iranien. On le connaît dans notre chair et dans notre sang.
D'où sors-tu ce chiffre? Qui l'a sorti?
Alors, je vais pas vous parler de... Je vais vous parler des attentats qu'il y a eu au Liban.
Non, là c'est un autre. C'est,
ah bah non, mais, ah bah oui, mais non, mais quand même.
Mais moi je veux bien, mais
tous les assassinats politiques, c'est qui les a fait? Qui les a fait? C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour pénale internationale.
Peut-être.
Alors, ça aussi, si on les croit pas.
Non, mais peut-être.
Si non, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est un jugement de la Cour pénale internationale dans l'assassinat de Rafik Hariri.
Ah oui.
Ah non, mais voilà, non mais oui, d'accord, mais il y a eu depuis 2005, si vous voulez, tout un enchaînement de
oui,
gens qui
ont été tués. Rafik Hariri.
Non mais Rafik Hariri, ça a été le symbole, mais il y a eu. Mais ce que je veux dire, c'est que le régime, je parle pas du peuple iranien. D'ailleurs, moi, je suis beaucoup de gens, des Iraniens qui sont ici. Eux, ils aspirent à un changement.
Je ne suis pas l'avocat du régime, hein, de toute façon.
J'ai pas dit oui, mais les diasporas, c'est jamais la même chose aussi.
Pourquoi c'est pas la même chose?
On pense pas pareil quand on est diaspora que quand on est local. Hein. Mais vraiment, on le voit même dans les votes, hein, dans les votes politiques. Mm-hmm. Par exemple, les expatriés français votent majoritairement centre, Macron, voilà.
Non mais les...
Mais
l'aimes ton Macron toi. Hein.
Non mais
la diaspora, moi je fais partie de la diaspora libanaise, si tu veux jouer si
non,
tu
mais
veux
j'ai bien
de la diaspora. Moi je vote pas Macron.
Ah mais d'accord.
Voilà,
mais ce que je veux dire c'est
non,
que
mais attends.
Majoritairement les diasporas sont plus libérales, choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, non mais c'est parce
c'est
que
ça,
la,
en fait,
diaspora, hein. La diaspora, elle a de la famille sur place. Moi au moment où je te parle, j'ai mon oncle et ma famille qui est sous les bombes. Mon oncle est à 1 km à vol d'oiseau de la banlieue sud de Beyrouth. Quand je l'ai au téléphone, t'entends ce qui se passe derrière.
Pardon de te poser cette question. Oui. Tu es chrétien, sunnite,
chrétien maronite, mais libanais avant tout.
Chrétien maronite,
ouais,
oui.
Mais libanais avant tout.
Oui,
voilà.
Oui, non.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, quand on parle de diaspora, il faut comprendre de quoi. Il y a des gens qui ont des familles sur place. Il y a des gens qui ont eu des morts sur place de la fête, de la faute du régime. Oui. Je justifie pas ce que Trump a fait. Trump, on sait ce qu'il a fait. Il a suivi aveuglément Netanyahou et qu'il devait le tenir, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, dans cette histoire, moi, ce qui m'intéresse, c'est nous, ici, dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait, nous ?
Excuse-moi, mais on va pas entamer le débat là-dessus, mais qu'on pourra reprendre. Ce n'est pas les phalanges chrétiennes qui ont perpétré les massacres de Samra et Shatila.
D'accord.
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play.
Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com.
Ok, D'Amour, c'était qui?
Pardon?
D'Amour, c'était qui?
Je sais pas.
Ah ben moi, je vais vous le dire. Ben, c'était les Yarmouks de Yasser Arafat.
Oui,
non,
La guerre au Liban a été extrêmement cruelle.
Alors voilà, c'est très intéressant. Non mais c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que ça illustre exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que tout le monde a en tête Sabra et Shatila qui sont condamnables, qui sont tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais casque bleu au Liban Sud, il y a Eli Obeika qui devait aller témoigner contre les Israéliens au tribunal international de La Haye, qui a été dézingué en plein Beyrouth. Moi, j'ai entendu l'explosion depuis mon poste de garde à Nakoura. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que tout le monde s'arrête sur Sabra et Shatila. Mais il n'y a pas eu que Sabra et Shatila au Liban. Il y a eu d'amour. Il y a eu d'amour. Oui. On exécutait des femmes. On exécutait les hommes devant les femmes et les enfants. Et ensuite, on exécutait l'enfant et la femme avec le sourire. Et c'est aller d'amour, D-A-2-M-O-U-R, 1976, me semble-t-il. C'était bien avant Sabra et Shatila. Et au Liban, on ne peut pas parler, si vous voulez, d'événements isolés. Il y a eu la grande réconciliation nationale au Liban. Donc ça, c'est fini. Tout le monde s'est réconcié. Donc on va pas remettre, si vous voulez, de l'huile sur le feu. Mais ce que je veux dire, c'est quand on veut parler de ça, il faut parler de tout. C'est pour ça que moi, quand ça a commencé déjà à l'époque du 7 octobre, et quand Israël a commencé à taper Gaza, moi j'ai reçu, en tant que quelqu'un qui est présent, je veux dire, sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des injonctions. T'es avec qui ? Non mais les gars, vous pouvez pas. On n'est pas en Ukraine là. Là, on est dans le bourbier du monde. Hein. On est dans une région qui est tellement complexe. J'avais même sorti 3-4 bouquins que j'avais mis sur la table. J'avais fait une vidéo. J'ai dit, hey, les gars, lisez, renseignez-vous, apprenez l'histoire. Et après, commencez à poser des questions. Parce que moi, les trois m'ont tapé sur la gueule. Et les trois ont fait des victimes chez moi. Que ce soit le Palestinien, que ce soit le Syrien, que ce soit l'Israélien. Voilà.
Cher Farid, tu voulais rebondir. Bravo pour ton intervention. T'as vu, je t'ai laissé jusqu'au bout. Hein. Cher Charbel.
Par rapport...
Merci.
Revenir sur le sujet, j'ai l'impression, pour revenir à l'Iran, et comment elle gère ce conflit. J'ai l'impression du combat de, je ne sais pas si vous en souvenez, contre Forman au Zaïre, qui a tenu 8 rounds, de Mohamed Ali, où Mohamed Ali avait adopté la tactique des coups et de riposte. Coups et riposte. J'ai un petit peu l'impression de voir ça avec l'Iran, où il encaisse les coups et il riposte derrière jusqu'au chaos. Est-ce qu'on va assister au chaos d'Israël et des États-Unis face à l'Iran ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. En tout cas, nous, en tant que Français, on n'a rien à y faire. On peut être, comme qui dirait, des faiseurs de paix.
Mais sur ce qu'a dit le général de Lavarde, peut-être un mot ?
Ah, rappelle-moi.
Oui.
Là en vidéo, ce qu'a dit.
Il a dit que les scénarios de guerre américains sont plus à la hauteur. Voilà.
Oui, c'est exactement ce que j'ai pu dire. Effectivement, par rapport à cette analogie que je faisais par rapport à un combat de boxe de Forman et de Mohamed Ali, c'est-à-dire que on a cette impression-là, c'est-à-dire du challenger qui arrive à mettre une raclée au champion du monde. Et effectivement, j'ai cette impression et je pense que à l'heure actuelle, ils n'ont pas su décrypter tel qu'il fallait l'Iran. L'Iran, comme
alors,
on l'a
dit... Alors, il faut en voir les conséquences.
L'Iran,
maintenant,
comme on a vu, qui était quand même faisant partie intégrante des BRICS, avec des partenaires qui ne sont pas n'importe qui maintenant, et l'émergence, comme je le disais, enfin l'éveil, même l'éclatement, dans le bon sens du terme, du Sud global face à un Occident en décrépitude totale, même on parle de morale, hein, c'est-à-dire quand Poutine prend la parole... en tant que leader des BRICS, il parle de la décadence de Trump. Lorsque les Iraniens prennent la parole, il parle de l'Occident d'Epstein. Donc derrière, on comprend bien qu'effectivement, c'est une guerre civilisationnelle, mais de valeur. Est-ce que, effectivement, les Américains ont pris la mesure de ces attaques ? J'ai pas, connaissant le... Enfin, imaginant le bonhomme qu'est Trump, j'ai pas trop cette impression. Franchement, il est parti comme ça, comme un vent en guerre, en croyant qu'il avait toutes les cartes en main. Maintenant, c'est l'Iran qui a tous les atouts dans sa manche. Et c'est elle, comme qui dirait, le maître des horloges.
Merci à toi. Jean-Michel, comment ça peut finir ?
Comment ça peut finir ? De toute façon, il y a des enjeux, on l'a dit, énergétiques, le pétrole. Il y a des enjeux régionaux pour Israël. L'Iran est le dernier verrou à faire sauter dans la région. Pas le dernier, peut-être. Ça peut aller plus loin, parce qu'il y a le Pakistan ensuite. Pour assurer son hégémonie régionale, mais pour M. Trump, il s'agit peut-être d'une fenêtre de tir avant la montée en puissance et l'accomplissement de la puissance de la Chine. Donc l'Iran est un verrou à faire sauter, à la fois contre la Russie et contre la Chine. Maintenant, comment ça peut se terminer ? Monsieur Trump y est allé pour un changement de régime, et le changement de régime, il peut aussi bien intervenir à Paris, si tout cela, si on arrive dans la foirade la plus intégrale, qu'aux États-Unis. On a déjà prévu, il y a un certain article de la Constitution américaine qui permet à M. Vance une destitution rapide et M. Vance de prendre le relais. Hein.
Comment voient les Chinois de cette situation là, actuelle?
Ben, les Chinois, la diplomatie chinoise ne fait pas vraiment de plan publiquement, en tout cas sur la comète. Moi, je dirais ce que je redoute personnellement, c'est que la France soit utilisée, comme je disais tout à l'heure, comme un mouton sacrificiel dans cette histoire, que ça donnerait une porte de sortie aussi bien aux Iraniens, aux Israéliens qu'aux Américains. C'est-à-dire qu'en fait, ça permettrait aux États-Unis, une fois que si un bateau français est coulé ou touché, ça permettrait de dire, eh bien, voilà, Trump va négocier la paix avec l'Iran. Les États-Unis n'ont pas perdu, c'est les Français qui ont perdu, mais les États-Unis n'ont pas perdu, et ça permet d'arrêter ça, parce qu'effectivement, comme disait Farid, il est un peu parti à l'aveuglette dans ce conflit, il pensait que ça allait s'arrêter au bout de 4-5 jours. On sait qu'il a demandé, par le biais de l'Italie, une espèce de négocier un cessez-le-feu, que les Iraniens lui ont dit « t'as commencé la guerre, mais c'est nous qui décidons quand on l'arrête », et donc ça serait une porte de sortie, et malheureusement, je pense qu'on va être les dindons de la farce. Et c'est pas la première fois, comme on le disait tout à l'heure, ça a failli nous arriver sous Hollande, en Syrie, et là je pense que Macron étant la personne qu'on connaît jusqu'au boutiste, ça risque pour le coup d'être la première fois qu'un bateau français sera touché au 21e siècle.
Bah, c'est vrai, le pire. Je voudrais parler aussi du niveau social, et comme j'étais à ma gauche, l'essence à 3 euros le litre, qu'est-ce que tu penses que ça déclencherait dans ce pays?
Rien. Ça déclenchera rien du tout.
Et les sûr gens,
mais oui, mais aussi, à part des hashtags, là, que j'ai vu circuler des hashtags, là, balance ton plein, ou je sais
pas. C'est vrai que 2 euros, ça n'a rien déclenché.
Non, ça n'a rien déclenché, là, même à 2,50€, là, on est à 2,54€.
Oui, bon, dans 2-3...
Mais on est déjà, parce que c'est pour ça que je te dis rien, parce que tu me parles de 3 euros, on est à 2,54€, ça n'a pas déclenché quoi que ce soit pour l'instant, surtout que l'essence...
Pour l'instant.
Mais surtout que l'essence, Macron, il a un levier, il peut ramener le calme au niveau de l'essence en attendant. Alors, il a dit qu'il allait utiliser les réserves stratégiques, ouais, bien. Sauf que ça veut, enfin, mais ça c'est flou pour les gens. Les réserves stratégiques, il leur a dit pour jouer sur les prix, donc c'est-à-dire pour faire baisser les prix ou pour calmer les prix ou quelque chose comme ça. Et je sais plus comment il a dit. Alors qu'il y a un truc qui est très simple, hein. Il y a un truc qui est très simple, qui est beaucoup plus simple que ça. C'est on joue sur la TVA. Et il a fait un quoi qu'il en coûte en 2000.
La TVA n'a pas le droit. C'est parce que c'est européen. Si tu veux baisser la TVA, il faut demander à l'Europe si elle l'accepte.
Et la TICPE?
Ah, ça oui.
Il y a 60%.
Ça peut être oui. Mais pas la TVA.
Non, mais d'accord. Mais on a une taxe sur la taxe. Quoi qu'il arrive, tu baisses de 10 points, de 0,10 points.
Ça oui, tu peux.
Sur 45 000 milliards de litres vendus à l'année. Bon, l'État, quand ça augmente de 0,10 points sur la TVA, par exemple, récupère 4,5 milliards. Donc, est-ce que tu crois franchement qu'ils ont envie de baisser? Mais bien sûr que non. Ils se foutent de la gueule du monde comme ils savent faire d'habitude, et ils t'envoient la belle Maude Bréjean, si tu veux, pour
leur
raconter des conneries sur... sortir sa leçon, si tu veux, sur les plateaux télé. Elle était sur RTL, je crois, ce matin. Et en fait, voilà. Donc, mais il ne se passera rien. Ouais. Je t'ai dit, Mike, je te les ai dit. On a quand même réussi à foutre il y a quelques années dans la tête de ce peuple qu'il faut qu'il aille sur Internet télécharger une attestation pour qu'il s'autorise à lui-même une autorisation de sortie, tu vois.
Mais ça coûte rien, psychologiquement.
C'était un bac scientifique.
60 milliards au trésor américain s'ils veulent maintenir les prix dans les jours qui viennent.
Non mais peut-être, mais moi je vous dis ce qui se passe ici. Genre, donc, je sais pas, c'est pas dans les compétences.
Toi, tu dis voilà, 3 euros le litre, les gens
encaisseront. Ils bougeront pas.
Il y aura peut-être de
nouveau. D'accord, Farid.
Rappelle-toi de ce que je te dis.
Sincèrement, moi quand tu me parles de est-ce que le peuple va réagir ou pas, enfin on est toujours dans l'espérance, effectivement, pour que ça puisse un petit peu aller vers le positif. J'ai cette image d'un Le Maire qui disait « on va mettre à genoux la Russie ». Quelques années plus tard, quelle ignorance, présomption. C'est d'arrogance, en fait. Hein. Et lorsqu'on voit à quel point on s'est mis à dos quand même un des partenaires maintenant inévitables, incontournables, qu'est la Russie, je me dis franchement,
malgré
c'est pas du tout des visionnaires, ça n'a rien à voir avec...
que l'Iran se bat...
Avec de la vraie politique.
Malgré combien, 20 ans, 30 ans, 40 ans de sanctions.
Non, mais c'est...
Ce qui est assez extraordinaire.
Non, mais pour revenir à la France, effectivement, on a plutôt l'impression qu'avec les politiques qui sont menées, rien n'est fait pour préserver le français. À aucun niveau, bah déjà on est totalement dépossédé de tous les leviers nationaux qui pourraient effectivement protéger le peuple.
Bah, c'est au niveau européen. Je suis pas d'accord. La mairie de Paris donne des tentes quechua.
Non mais
c'est vrai, hein.
Sérieusement.
C'est sérieux. On a interrogé un sans-abri et la mairie de Paris donne une tente quechua.
Pour parler par exemple à l'indépendance énergétique, il faut savoir au niveau de l'électricité qui a mis en faillite énormément de petits commerces, des boulangeries, etc. avec l'explosion du prix du kilowattheure. On avait l'indépendance totale de l'énergie, on était le fleuron au niveau européen et à cause de décisions européennes qui ne nous appartiennent plus, on est totalement dépossédé de cette, on va dire, indépendance énergétique et on en paye le prix fort à l'heure actuelle.
Vous savez ce qu'ils vont faire ?
Et ça va être la même chose avec le pétrole.
Vous savez ce qu'ils vont dire, les gars de l'État ?
Malheureusement, nos politiques sont là pour nous mettre la tête sous l'eau.
Vous savez ce qu'ils vont dire, les gars de l'État ?
Macron,
ils vont dire, le pétrole est trop cher. Ben voilà, rouleur électrique, les gars.
Macron gère le chaos, Mike. Macron gère le chaos. C'est tout. Il gère le chaos. C'est le maître du logo. C'est le maître du chaos. C'est tout ce qu'il fait.
Tiens, Laurent.
Oui, passé électrique chinois. Effectivement, ce que disait Charbel m'interpelle parce que je me rappelle de comment il s'appelait le premier ministre de le maire du Havre,
Edouard Philippe,
qui il avait fait une conférence à l'ESSEC. Où il expliquait devant les étudiants que, en fait, alors on se rappelle que c'était le premier ministre du Covid, et il expliquait qu'en fait, il suffisait un petit peu de tenir la barre pour le gouvernement, et absolument tout passait en force. Et il avait expliqué le Covid, il avait expliqué tout un tas de crises, les gilets jaunes, et des choses comme ça. Il avait dit, en fait, il suffit de tenir la barre un certain temps, et le peuple finit par se rasseoir et rentrer chez lui. Donc je pense effectivement que de l'essence à 3 euros, ça ne changera pas grand-chose.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. The rush of racing? Nothing beats it. But Chumba Casino comes close. Chumba's got fast spins, fun games, daily bonuses, and all the action you can handle. Now that's a ride. Ready to hit the throttle? Get in the driver's seat and head to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.